Patrick Martin, bonjour.
Bonjour.
L'Union européenne, on vient de l'entendre, s'est donc entendue sur une baisse potentielle de 15% de l'utilisation de gaz qui pèserait en priorité sur les entreprises. De son côté, le gouvernement français veut que le pays réduise sa consommation d'énergie de 10% dans les deux prochaines années. Les entreprises sont-elles prêtes pour cette nouvelle sobriété énergétique ?
Un certain nombre d'entreprises, et pas des moindres, s'y sont préparées, ont même pris des engagements. Je pense à tout le secteur de la distribution, les grandes surfaces, mais également le petit commerce. Il va falloir qu'on fasse des efforts supplémentaires dans les bureaux. Revenir en définitive à ce qui existait à l'occasion du premier choc pétrolier, hein, c'est-à-dire pas plus de 19 degrés de chauffage, des climatisations qui ne s'enclenchent qu'à partir de 26 degrés. Il ne faudrait pas que tout repose sur les entreprises. Hein. Et en particulier, il faut éviter que les industriels eux-mêmes soient touchés, parce que ça peut avoir des effets en cascade sur l'ensemble de la production, sur l'emploi lui-même. Je veux dire par là qu'il faut aussi que les ménages, je fais partie des ménages, je suis un particulier, au même titre que vous, fassent des efforts. Le gouvernement est un peu discret et élude un peu ce sujet. Les particuliers vont devoir faire des efforts. Je pense qu'ils le feront volontiers parce que le prix de l'énergie lui-même les y contraindra.
Vous parliez des petits commerçants, des grands groupes de distribution qui se disent prêts à s'adapter. Ils évoquent notamment la réduction de leurs horaires d'ouverture. C'est une bonne solution selon vous ?
C'est pas la mesure prioritaire. La mesure prioritaire qui est de bon sens en définitive, hein, c'est d'éteindre les lumières une fois les magasins fermés, les enseignes elles-mêmes, de fermer les portes quand les magasins sont climatisés, réduire les horaires d'ouverture. Je pense que c'est vraiment la dernière extrémité parce que ça pénalisera tout simplement les consommateurs.
Ça pénalise les consommateurs, mais peut-être aussi les employés. Le fait de ne pas avoir des horaires de travail continu, c'est ce qui a posé problème, notamment à la restauration, qui a fait partir un certain nombre d'employés de ce secteur et qui participe de la pénurie actuelle. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ne pas justement rajouter des difficultés aux entreprises pour le recrutement.
Absolument. Alors, on a des problèmes de recrutement d'une manière générale. Pardon, je reviens sur un point. Nous, on s'interroge beaucoup sur du télétravail obligatoire. Par exemple, en l'état, le bilan énergétique du télétravail n'est pas avéré. En tout cas, il n'est pas dit qu'il est positif. Il y a des économies sur les frais de trajet des salariés concernés. Mais en l'état, on maintient quand même des bureaux ouverts parce que les salariés en télétravail, le plus souvent, sont en rotation dans les bureaux. Et par ailleurs, quand ils sont à leur domicile, bien évidemment, ils s'éclairent, ils se chauffent. Enfin, ils se chauffent ou ils se climatisent en ce moment. Et donc, on est assez réticents à cette idée qui circule, qu'il faudrait qu'il y ait donc des journées de télétravail obligatoires pour les fonctions qui le permettent. Ensuite, pardon.
Je vous disais les horaires non continus, ça peut être un problème si nouveaux secteurs s'y mettent.
Oui, on n'y croit pas. Hein. Sincèrement, on n'y croit pas. En revanche, l'objectif de 10% de réduction des consommations énergétiques dans bon nombre de secteurs, c'est jouable. On va tous s'y employer. Je le redis, il faut être très attentif à l'industrie, pas seulement au secteur dit énergo-intensif. Hein. On voit en l'état, y compris dans le secteur du textile, qui n'est pas considéré comme énergo-intensif, que l'augmentation du prix de l'énergie, voire la pénurie d'énergie à un moment donné, peut menacer l'existence même d'entreprises. Donc préservons ce joyau qu'est notre industrie.
Et ça peut aussi menacer la situation de l'emploi dont se félicite le gouvernement à l'heure actuelle ?
Absolument. Absolument, et c'est précisément ce qu'on doit éviter. Je veux dire par là que les petits efforts qu'on devra faire, les particuliers comme les entreprises, sont supportables jusqu'à un certain point. Mais enfin, ce qui se dessine même dans les scénarios les plus pessimistes, c'est quand même pas la catastrophe absolue. C'est peu de choses au regard des menaces que ferait peser sur l'emploi une véritable récession si d'aventure on devait interrompre la fourniture en énergie, en gaz comme en électricité d'un certain nombre de secteurs.
Pour revenir à la question de la sobriété énergétique des entreprises, vous qui êtes à la tête d'une entreprise qui fournit notamment des produits au secteur du BTP, mais aussi aux industries, comment vous envisagez les choses ? Est-ce qu'il faudrait au final produire moins, construire moins pour aller dans la direction de cette sobriété ?
Alors c'est un vaste débat au titre du MEDEF, bien sûr, j'ai notamment avec le Shift Project, qui est très intéressant, le Shift Project. En fait, comme en bien des domaines, il faut gérer nos contradictions. Il y a une pénurie de logements actuellement en France, le coût du logement n'en finit pas d'augmenter. C'est un facteur d'éviction des ménages modestes qui doivent aller se loger de plus en plus loin quand ils trouvent à se loger, qui à partir de là ont des temps et des coûts de transport de plus en plus élevés. Je ne crois pas que ce soit la solution de construire moins. Il faut construire mieux, en revanche, il faut en particulier vouliez densifier les villes, et ça renvoie à la nécessité pour les élus locaux de bien expliquer à la population qu'il faut construire en centre-ville, il faut rehausser des immeubles. Ça renvoie aussi à l'idée que la taxe d'habitation ayant été supprimée, les élus locaux n'ont plus aucun intérêt financier à construire, et donc l'État se doit de reprendre la copie. Nous, on sera très en soutien pour motiver les élus locaux et sensibiliser la population.
Alors, cette sobriété énergétique, elle fait l'objet de nombreux débats politiques que vous observez évidemment avec attention. Dernièrement, les écologistes, hein, Sandrine Rousseau, la députée, propose de réduire la vitesse sur les autoroutes. Ça concernerait aussi évidemment le fret routier. La sobriété, c'est la lenteur aussi. C'est faut accepter peut-être d'attendre plus longtemps pour avoir des produits, pour construire un immeuble, pour construire une usine.
Alors, il y a plusieurs sujets dans le sujet. Non, je pense qu'il faut accélérer dans bon nombre de domaines. Je pense en particulier à ce projet de loi qu'Agnès Pannier-Runacher déposera dans les prochaines semaines pour accélérer, au contraire, la mise en œuvre d'installations de production d'énergie renouvelable. Il faut accélérer, je pense, sur les permis de construire, que ce soit de logement ou d'installations industrielles. La France est vraiment la remorque de tous les pays du monde, et singulièrement de ses concurrents européens de ce point de vue. C'est très dissuasif, ça détourne de la France un certain nombre d'investissements, et je le redis, ça pénalise le secteur du logement. Après, il y a probablement des comportements qu'il nous faut modifier, plutôt, je pense, sur la base de sensibilisation et de volontariat. N'oublions pas qu'une des raisons du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes, c'était la limitation à 80 km/h sur les routes départementales.
Oui, mais c'est quand même un levier assez efficace pour limiter les émissions polluantes dans un premier temps, et puis pour consommer moins dans un deuxième.
Alors, il y a un bouquet de solutions, mais je le redis, s'agissant des limitations de vitesse, il faut qu'on soit assez prudent. Il faut déjà qu'elles soient respectées. Je crois qu'il y a une petite dérive ces derniers mois, qui se traduit d'ailleurs par une augmentation du taux d'accident, ce qui est très grave, surtout quand ils sont mortels, évidemment. Mais il ne faut pas se focaliser sur une disposition. Je pense que sur le logement, sur la production industrielle, on a des solutions. Il faut beaucoup compter sur l'innovation. Et notre pays est un peu, là aussi, en retard en matière d'innovation. Ça suppose des capacités financières pour le secteur public, la recherche publique, également pour les entreprises. Nous, on est très confiants au MEDEF sur ce que l'innovation technologique nous apportera assez rapidement.
Alors justement, par rapport à ça, c'est ma dernière question. Il y a eu début juillet l'appel de 84 dirigeants de grandes entreprises à passer une sobriété organisée qui encourage l'économie circulaire, l'économie d'usage, la relocalisation. C'est pas vraiment l'innovation technologique. Concrètement, ça voudrait dire quoi pour les entreprises de faire de l'économie circulaire? Et puis surtout, c'est à quelle échelle? C'est à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne?
Alors, si vous me permettez, si ça repose en bonne part sur l'innovation, moi, encore hier, j'ai vu la fédération qui s'occupe du recyclage, du retraitement. Il y a des innovations technologiques extraordinaires avec un objectif qui est de rendre ce modèle d'économie circulaire rentable. Parce que là aussi, on doit gérer nos contradictions. En l'état, des produits verts ou des services verts, ça coûte de 20 à 30% plus cher que ce qui est gris ou non vert, on va dire. Et donc, il y a une capacité du consommateur final à absorber ou pas ces surcoûts, et ça ne pourra réussir que par l'innovation. Mais on voit se développer des modèles extrêmement intéressants, et c'est plus, comment dire, c'est plus anecdotique, hein, ça s'industrialise, ça se généralise dorénavant. Regardez ce qui se passe, par exemple, sur le retraitement de l'eau. Il y a un gaspillage d'eau qui est absolument hallucinant, mais il y a des initiatives prises notamment par Veolia ces derniers temps, mais c'est vrai de Suez et d'autres opérateurs. On va, j'en suis absolument convaincu, on va progresser très très vite sur l'économie circulaire, le recyclage, le retraitement. Il ne faut pas non plus se convaincre qu'on va se replier sur nous-mêmes, ça serait une fausse bonne solution.
Merci beaucoup Patrick Martin, je rappelle que vous êtes président délégué du MEDEF.